Bienvenue à Boulevard 102.1. Bienvenue à l'émission Nageurs, son émission d'actualité du midi. Ça va être un très gros midi, on vous l'annonce immédiatement. Démission majeure dans le camp de la CAQ, Jean Boulay, ministre du Travail, ministre responsable des relations avec le gouvernement canadien qui décide de quitter. Même s'il avait dit à Christine Fréchette, « Hey, sais-tu quoi, je vais rester. » C'est une grosse perte, une énorme perte pour la CAQ qui peine à attirer des nouveaux candidats et qui, là, vient d'en perdre un très gros morceau
un gros
de
morceau
son
qui,
équipe.
Un gros morceau qui était quand même apprécié beaucoup par les Québécois.
Oui.
Jean Boulay avait une bonne réputation auprès des Québécois. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal.
Vraiment. On va avoir Stephen Blaine en entrevue aux alentours de midi 25. Maire de Lévis, 32 millions qui sont tombés du ciel hier. Quand gagnons ça? On est en déficit de 17 millions, puis là, patauk! Il y a 32 millions qui est tombé du ciel. J'ai hâte de voir comment M. Blainer a réussi à faire ça. Est-ce qu'il est allé au bout d'un arc-en-ciel? Il a trouvé le petit lutin?
Non, mais...
Puis là, il a dit, hein, le petit lutin, 32 millions?
Quand j'ai vu ça, je me suis presque dit, crime, il y a un miracle qui s'est passé.
Oui, exactement.
On parlait de l'état des finances de la ville de Lévis comme si c'était catastrophique il y a de ça quelques mois.
Oui, puis là, tout à coup, paf, 32 millions qui nous tombent sur la tête. Regardons ça. Stephen Blainey, le magicien, va lui parler à midi 25. Toujours sympathique, bien hâte de piquer une petite jasette avec lui. Le scandale du jour, c'est à la Ville de Québec. C'est le vérificateur général qui déposait son rapport. Si vous pensiez qu'on avait fini de parler de Québec international, oubliez ça. C'est des millions de dollars versés en subventions en trop à l'organisation depuis 2018. Je vous explique tout ça en détail aux alentours de midi 40. Là, si l'opposition cherchait vraiment un sujet autre que le tramway, bien là, vous l'avez, là, en plein dedans. Scandale financier, Ville de Québec, Québec international. Allez creuser encore plus, mais c'est un rapport dévastateur de Daniel Rancourt, le vérificateur général de la Ville de Québec. J'en parle à midi 40. 13h, Pascal Paradis, député de Jean Talon, vient s'asseoir avec nous. Est-ce que Charles Milliard va finalement poursuivre le PQ? Pourquoi le PQ a fait cette sortie-là contre le TGV la semaine dernière? Le PQ est rendu troisième dans la région de Québec, quand même 8 points derrière la CAQ. Donc, on a plein de questions pour lui à lui poser. Vous le savez, 418-971-1021. Vous les posez, vous aussi. Fait que bref, ça va être un très gros show, rempli d'actualités très importantes pour vous. Restez à l'écoute. Et vous le savez, pour nous écouter, c'est le blvd.fm également via notre web radio ou notre application BLVD101 disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. C'est Emmanuel Latraverse dans le caucus aujourd'hui, mais avant d'aller lui parler, Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Bien, t'en as parlé, rapport du vérificateur général du côté de la Ville de Québec. On apprend que, justement, Québec international a un financement beaucoup trop élevé comparé à ce que ça devrait être. On va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais je veux vous signaler aussi, le RTC a été critiqué dans ce rapport-là. On parle d'au moins un autobus sur cinq du RTC qui ne respecte pas les horaires. C'est ce qui nous est appris justement dans le rapport d'Audi. On parle de 20% pour les métrobus et de jusqu'à 31% pour le service normal. On parle de 15% pour le service de bus, donc les numéros classiques, là, qui sont en retard de 5 minutes ou plus, et 16% du temps qui sont en avance.
Quel mauvais service!
Le RTC qui a réagi par communiqué en disant accueillir avec ouverture les recommandations du vérificateur général de la Ville de Québec, puis qu'on allait faire le plus possible pour mettre en place ces 7 recommandations qui sont émises dans le rapport. Et je termine justement avec Jean Boulay, le ministre du Travail, qui a annoncé son départ. En fait, qui a annoncé qu'il n'allait pas se représenter au prochain mandat. C'est dans un point de presse durant lequel il était très ému du côté de Trois-Rivières, qu'il a annoncé la nouvelle après une longue réflexion. Il a tenu à préciser toutefois que pour lui, Christine Fréchette était la bonne personne pour diriger le Québec.
Oui, exactement, mais il quitte. Il n'a pas vraiment donné de raison. On en parle immédiatement dans le caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Aujourd'hui, c'est Emmanuel Latraverse avec nous pour le caucus. Emmanuel, comment vas-tu, ma chère?
Ça va très bien, merci.
Cool. Ça va sûrement mieux que Christine Fréchette. On écoute d'ailleurs l'émotion que Jean Boulay avait dans la voix ce matin. Ça part.
Pour faire l'annonce qu'après 8 années, comme ministre, j'ai pris la décision de ne pas solliciter de nouveaux mandats aux prochaines élections.
Quel coup dur, Emmanuel, pour Christine Fréchette. On n'est pas capable d'attirer un nouveau candidat. Là, c'est le 32e départ, je ne m'abuse, mais c'en est tout un parce que c'est lui qui a réussi à construire rapidement ces ponts-là entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui a amené aux fameux 10 milliards de subventions, là.
Oui, mais je pense surtout qu'il était... Jean Boulay, moi, je le mets un peu sur la même... le même pied que Sonia Lebel, tu sais, des forces tranquilles, compétentes, mm-hmm. à leur affaire, qui incarnent ce qui a beaucoup manqué dans ce gouvernement-là, là, la discipline et la minutie, et l'obtention de résultats sans affrontements spectaculaires et délirants. Donc oui, c'est un coup dur pour elle, c'est certain. Et c'est là que ça commence à faire mal. C'est quand tu as des ténors du gouvernement qui quittent là. Alors, ça met d'autant plus de pression, je pense, sur ses épaules. On nous dit que dès la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles candidatures. J'espère pour la coalition Air Québec que ça va être des candidatures qui sont capables d'accoter en termes de crédibilité des gens comme Sonia Lebel, comme Jean Boulay. Tu sais, puis on l'a vu dans le sondage qui a été publié ce matin, les Québécois sont indécis, sont incertains, sont pas enthousiasmés par l'option politique qu'ils ont devant eux. Madame Fréchette a réussi à incarner une part de nouveauté, dans le sens de faire oublier, entamer une forme de réconciliation, je pense, avec l'électorat de la CAQ. Mais c'est comme si les électeurs se disent, c'est quoi un gouvernement Fréchette? T'sais? C'est quoi la coalition sous Christine Fréchette? Puis c'est là que l'arrivée de nouveaux candidats qui deviendront les ténors de demain devient important et essentiel pour elle, pour être capable de faire la preuve que ce parti-là est capable de renouveau au-delà de l'ère Legault.
En effet, t'as entièrement raison, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais nous, ici, à Québec, on entend beaucoup les gens dire « Je suis tanné de la chicane PQ-PLQ, je suis tanné de les entendre chicaner sur le camp du oui, le camp du non. » Ça explique en partie pourquoi Éric Duhaime et son Parti conservateur est premier dans la région de Québec. Donc, si Christine Fréchette est capable d'offrir vraiment une alternative attirante, il y a beaucoup d'électeurs indécis qui vont se ranger derrière la CAQ.
Bien, c'est la question, je pense, qui plane toujours. Là. Tu sais, on regarde les intentions de vote. On voyait dans le Québec francophone, là, parce que
oui.
les intentions de vote à l'échelle du Québec sont comme dopées là, par la concentration de vote du Parti libéral. Tu sais, le PQ est à 35 % la CAQ à 23, le PLQ à 20. Puis... mais il y a 47 % seulement des électeurs dont le choix est définitif, tu sais.
C'est ça.
Alors, c'est comme si le Parti québécois est, semble, pour l'instant, les choses vont beaucoup changer, mais pour l'instant, le Parti québécois est plafonné dans son option souverainiste. Hein? Les appuis à la souveraineté ne bougent pas, sont à peu près égaux aux appuis au Parti québécois. Donc, les Québécois ne veulent pas de référendum. Mais il regarde Charmillard puis il dit « C'est quoi le Parti libéral, Charmillard? »
C'est drôle, on faisait la blague hier, puis on disait « C'est quoi? » Puis je donnais l'exemple dans la région de Québec. On a un progressiste avec Farnell Morisset qui a été annoncé dans Taschereau. On a une candidature économique avec Julie White dans Jean Talon. Et là, dans l'appelleterie, on a un scientifique philosophe qui est contre le troisième lien avec M. Alain Chandonnet. Donc, tu regardes ça et tu dis « On se situe où pour le Parti libéral? »
Oui, c'est ça. Alors, il y a comme un gros côté de page blanche, une immense méfiance. Le Parti libéral, hier, a déposé son plan sur la langue française pour essayer de convaincre, de redorer sa crédibilité sur un enjeu identitaire existentiel comme la langue. Je doute que le plan suffise. Alors, là, les Québécois regardent ça. Donc, tu sais, tout n'est pas perdu pour la coalition Amérique-Québec. Au contraire, moi, je pense qu'il va y avoir une course à qui peut empêcher un référendum.
Mm-hmm.
Ça va être un duel vraiment entre le Parti libéral et la coalition Avenir Québec. Donc, il reste encore... la page est blanche, d'une certaine façon, là, pour la CAQ et le Parti libéral. Puis plus Mme Fréchette est susceptible d'arriver avec des candidatures qui incarnent un renouveau, plus elle est susceptible de pouvoir changer la discussion politique, s'éloigner du rejet de l'ère Legault, du désir de changement, et plus est capable de neutraliser peut-être le désir de changement en ce moment.
En effet, t'as entièrement raison. Cependant, la CAQ demeure toujours troisième dans les sondages. Le taux d'insatisfaction a augmenté par rapport aux sondages précédents. T'es quelqu'un qui veut se lancer en politique. Est-ce que la CAQ est vraiment ton véhicule?
Et quelqu'un qui veut te lancer en politique, si tu veux faire un référendum, tu vas au Parti québécois.
C'est clair.
Si tu es nationaliste, mais que tu ne veux pas et que tu ne crois pas à l'option référendaire en ce moment, la CAQ est redevenue... Je pense que Mme Fréchette a montré que la CAQ n'est pas morte.
Tu as raison.
Mais la CAQ a peut-être des moyens de survivre, de passer au travers. Ça ne sera pas facile. Ça dépend t'es où dans ton cycle politique, tu sais. Est-ce que tu t'attends à être nommé ministre demain matin ou tu es prêt à tenter l'aventure? Moi, je pense que tant que M. Millard a autant de difficultés à définir son option politique de manière précise, cohérente au chapitre économique, entre autres, avec plus de précision, d'incarner quelque chose, bien, plus ça ouvre des portes et des opportunités, je pense, pour Mme Fréchette.
Oui, j'aime ce que tu dis, parce que pas plus tard que ce matin, dans Marceau le matin, c'est disponible sur blvd.fm, on avait Christine Saint-Pierre, l'ex-ministre libérale, encore militante, justement, chroniqueuse aussi à Radio-Canada, qui disait « Parti libéral, ça a toujours été l'économie », puis là, je n'entends pas parler d'économie.
Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, on va construire... Puis, on est encore beaucoup dans les slogans, là, tu sais, parti des régions, ouais. Construire 100 000 logements. Tu sais, le défi, c'est quoi? Comment tu articules cette politique-là, tu sais? Puis, c'est sûr que c'est hyper complexe dans le monde actuel, etc., mais ça prend une ou deux idées fortes que les gens saisissent, à laquelle ils peuvent s'identifier. Et ça, on l'attend toujours, je pense, du Parti libéral de Charles Millard. Tu sais, hier, on avait beaucoup fait monter les attentes. On a fait une grosse annonce sur le français, hein, et pas sur la survie du français, mais sur le français plus largement.
En effet.
On attend l'annonce équivalente sur l'économie.
Oui, tu as entièrement raison.
Comment tu le... Tant qu'elle ne sera pas faite, mais ça va être difficile pour le Parti libéral de préciser son offre politique dans l'esprit de l'électorat.
Parlant de l'annonce sur le français, on écoute Charles Millard justement cet effet hier en point de presse.
La solution, c'est de présenter un plan robuste comme on a fait justement pour amener une meilleure quantité et qualité de français dès le jeune âge. Alors, les mesures qu'on a proposées sur la lecture, sur l'apprentissage, la convocation des États généraux de l'éducation sont des mesures qui vont aider nos jeunes à avoir une meilleure qualité et quantité de français. Et par la suite, on va aussi aider les immigrants qui arrivent ici à avoir une francisation plus rapide. Alors, c'est la raison pour laquelle on a un plan qui est aussi robuste.
On mise sur la qualité et non pas la quantité. On mise sur l'accompagnement plutôt que la restriction. Honnêtement, il m'a surpris. J'ai trouvé qu'il y avait un beau fil conducteur dans cette annonce-là.
Oui, il y a un fil conducteur qui est un peu comme l'amour de la langue, tu sais, la préservation, la valorisation de la langue française. Puis je pense que quand on parle du français au Québec, il faut oser et parler davantage de la qualité de la langue.
Ah, c'est clair.
Du problème de l'analphabétisme, du fait que les jeunes ne lisent pas assez, qu'il y a beaucoup d'enseignants qui peinent encore à absolument et parfaitement maîtriser le français. Donc, qui mettent les projecteurs là-dessus, moi, je pense que c'est important, c'est pertinent et je m'en réjouis. Le problème, cependant, c'est que il y a 10 ans, ce plan-là aurait été jugé comme étant extraordinairement fort, audacieux.
Ouais.
Mais on sort de 8 ans de gouvernement de la CAQ qui a vraiment mis à l'avant-plan le déclin du français. La menace qui pèse sur la pérennité de la langue. Et à ce chapitre-là, je n'ai pas entendu précisément dans le plan de M. Millard ce qui va freiner le déclin, à part les mesures pour la francisation. OK? Donc, ça, c'est bien, on met plus d'argent, on veut accélérer la francisation, mais ça aurait mérité d'être précisé. Pour preuve, le commissaire à la langue française, il y a un rendez-vous manqué pour le Parti libéral là-dedans. La semaine dernière, le commissaire à la langue française disait que la première chose en termes de francisation à faire, c'est de s'assurer que les gens étudient à temps plein.
Okay? Oui.
Et qui propose de mettre de l'avant des bourses de 15 000 $ pour que les gens aillent à temps plein, etc. Parce que tu apprends le français une heure par jour ou deux heures par semaine.
Oh, oublie ça, c'est pas suffisant.
Tu ne réussis pas à atteindre le niveau nécessaire. Donc, comment ça se fait que le Parti libéral n'a pas saisi ça? Parce qu'il y aurait pu, après ça, dire, vous voyez, nous, on va mettre en avant.
Excellent point.
Alors, c'est là que il y a des côtés maladroits dans ce plan-là qui le rendent d'autant plus vulnérable que c'est philosophique, c'est idéologique. Chez le Parti libéral, il n'est pas question d'interdire aux gens d'aller faire leur collégiale en anglais ou d'aller faire leur formation professionnelle en anglais. Donc, à partir du moment où tu décides que tu veux sauvegarder le libre choix après les écoles secondaires, bien, il faut que tu aies un gros, gros, gros morceau là, qui tend à t'immuniser contre les critiques. Donc, l'ensemble de l'œuvre est intéressante. Mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre que tu vas freiner le déclin? C'est là que j'ai des doutes.
Oui, en effet, c'est pas suffisant. Puis il aurait fallu, pour toi, pour moi, en tout cas, pour me convaincre, il aurait fallu qu'il y ait une partie beaucoup plus axée sur l'immigration et la rapidité de franciser, ce que je retrouve pas dans ce plan-là. Je me trompe-tu?
Non, mais ça fait... C'est comme... Objectivement, on s'entend, là, le Parti libéral ne peut pas gagner, OK, sur ce dossier-là.
Non, c'est clair.
C'est comme demander au Parti libéral de réaliser quelque chose d'impossible. Non, mais il faut quand même être...
T'as entièrement raison.
Être juste, là, le Parti libéral, c'est son défi, veut rassembler autour de la langue, veut retirer l'opprobre qu'on met sur le dos des immigrants à l'effet que c'est toute de leur faute. Alors là, tu ne peux pas faire un plan immigration en même temps que ton plan de francisation.
Non, c'est ça, ça ne fonctionne pas.
Tu reviens dans une logique qu'a dénoncé le Parti libéral. Il faut qu'ils soient fidèles à leur propre discours. Donc, ils sont vraiment coincés là, sur cet enjeu-là. Je pense que le but, c'est d'arriver avec des sommes importantes, beaucoup d'argent, pour être capable de calmer le jeu puis d'arriver avec quelque chose qu'on va juger crédible. Même si ça demeure vulnérable.
Ben, pour être capable d'avoir la fameuse ligne, nous, on travaille sur la qualité du français.
Oui, puis sur la francisation.
C'est ça.
C'est pour faire mieux que... Parce qu'il y a quand même le tiers des sommes là, dans le plan sont quand même vouées à la francisation. C'est le plus gros poste budgétaire. Puis, de mettre de l'avant l'idée qu'il faut parler de la qualité du français... Ça va rejoindre des électeurs francophones aussi. Là. Il faut pas se leurrer. Là.
C'est clair. Puis il n'y a pas le choix de monter dans le vote francophone pour pouvoir faire bonne figure à l'échelle de la province. Emmanuel Latraverse, c'est toujours un plaisir. On se reparle vendredi.
Très bien, au revoir.
Salut, Emmanuel Latraverse, chroniqueuse politique dans le caucus à chaque vendredi. Aujourd'hui, il était là en raison de l'absence d'Antonine Iaccarini. Mathias Turcotte, je te propose une pause.
Yes.
Stephen Blaney devrait nous appeler durant cette pause-là. Donc, on va jaser avec cet homme qui est tombé sur 32 millions de dollars
hier. Comme par magie.
Comme par magie, immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.
Boulevard 102. Gros dossier du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Oui, et je sais, cher auditeur, que vous aimez jaser avec nous également. 418-971-102, on va parler de gros dossiers qui vous touchent. Les finances de la ville de Lévis. On sait qu'on a plusieurs auditeurs qui habitent à Lévis. Et également un scandale financier touchant encore une fois... Québec International et la ville de Québec. On vous parle de ça dans la prochaine demi-heure, donc n'hésitez pas à interagir au 418-971-1021. On adore vos commentaires. Vous êtes à la maison, parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 1021, on apparaît dans vos oreilles. Mathias, avant d'aller rejoindre le maire de Lévis, Stephen Blaney, cet homme que je m'amuse à dire qu'il est tombé sur une poche de 32 millions de dollars pas plus tard qu'hier, au bout d'un arc-en-ciel avec un petit lutin, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Une opération visant trafic de stupéfiants a eu lieu hier, justement, du côté de Québec. Les policiers de l'escouade nationale sur la répression du crime organisé. C'est 5 personnes âgées de 30 à 50 ans qui ont été arrêtées. Elles ont par la suite été libérées et vont devoir comparaître ultérieurement. 4 perquisitions au total. On parle de 2 kg de cocaïne, 100 000 $ en argent et notamment une montre de luxe Rolex également. Ça vient de sortir chez Radio-Canada 3 ans après l'implosion du sous-marin Titan au large de l'île de Terre-Neuve. Je vous rappelle le scandale OceanGate, ouais. C'était des milliardaires qui étaient descendus. Le Titan qui était le submersible et qui avait implosé. Il y a même un excellent documentaire Netflix sur ce sujet-là. Eh bien, on vient de recevoir le rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada qui met en évidence plusieurs lacunes quant à la surveillance des opérations des submersibles. On dit qu'il y a eu un manque d'échange structuré d'informations entre des organismes fédéraux qui n'a pas permis à Transport Canada, au final, de recueillir des informations pour évaluer les risques des différentes plongées de ce submersible-là. On a donc émis 6 recommandations au total, dans le but de corriger les normes techniques pour les submersibles et renforcer la sécurité du secteur. Le premier ministre Mark Carney, c'est le G7 qui se termine aujourd'hui. Il a affirmé avoir eu plusieurs conversations informelles avec le président Donald Trump. C'est entre 7 et 8 normalement. Il y en a une notamment qu'on a entendue concernant des véhicules électriques chinois en raison de micros qui étaient mal fermés. Par contre, à noter qu'il n'y a eu aucune rencontre officielle entre les deux dirigeants de pays. Et je termine avec les recherches pour retrouver le kayakiste du côté de Saint-Lambert-de-Lauzon qui a sombré dans les eaux de la rivière Chaudière qui sont toujours en cours. Un poste de commandement qui a été mis en place au parc du détroit de la Chaudière dans le but de retrouver l'homme qui est porté disparu depuis 19h30 hier soir.
On se part dans 30 minutes. Cristiano Ronaldo fait son arrivée sur le terrain pour sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal. C'est le Portugal qui va affronter le Congo. Quel spectacle extraordinaire en Coupe du Monde. 2 buts pour Mbappé dans la victoire de 3-1 de la France sur le Sénégal. 2 buts pour Haaland, l'excellent Norvégien, dans une victoire de 4-1 de la Norvège sur l'Irak. Mais wow, Lionel Messi n'allait pas être en règle. Tour du chapeau dans une victoire de 3-0 de l'Argentine sur l'Algérie. Les meilleurs joueurs commencent à fouler les terrains. C'est excitant. Pas possible, cette Coupe du Monde de soccer.
38 ans pour Lionel Messi. 38 ans. On a vu
hier. Bang!
Coupe du Monde, puis l'Argentine qui est classée premier, techniquement, c'est dans les meilleures équipes au monde.
Oui.
Puis malgré ça, Messi, c'est le joueur qui a mieux c'est joué ça. De cette équipe-là. C'est fantastique.
C'est incroyable. On va rejoindre le maire de Lévis, Stephen Blaney, qui vient tout juste de déposer son cadre financier, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en ondes. Monsieur Blaney, ça va bien?
Ça va très bien, Jeff. J'aimerais même bien être en studio, mais ben ce que oui. voulez-vous, hein? On a le fleuve qui nous sépare.
Ben, c'est ça. On a le fleuve qui nous sépare. On n'a pas encore de troisième lien pour que ça aille plus vite. Fait que,
ouais,
que
là, voulez-vous? Ça a l'air qu'on s'en va en appel d'offres international.
Ah,
on va peut-être finir. On va voir ce que ça va donner, là, cette nouvelle mouture-là.
Ben, c'est ça. Et croyez-vous, parce que, ça fait souvent qu'on est en appel d'offres international dans ce dossier-là.
C'est la première fois là, pour un bouclage périphérique, un vrai projet structurant. Fait qu'écoute, on va donner la chance aux coureurs, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Monsieur Blaney, je veux savoir votre recette parce que moi, ma blonde me dit toujours, faut que tu gères ton budget adéquatement, mon Jeff, puis je fais des efforts, mais je suis jamais tombé sur 32,8 millions de dollars. Comment vous avez fait ça?
Ben, écoute, c'est parce que j'ai choisi la plus belle ville du Québec, la plus dynamique, Lévis, pour devenir maire. Et puis, on a beau dire, les maires changent, mais le dynamisme de Lévis ne se dément pas. Et juste 50 transactions au cours de 2025 ont rapporté 11,5 millions. 50 transactions. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Direct sa dette, remboursement anticipé de 10 millions de la dette, mon cher Jeff. Fait que qui paye ses dettes s'enrichit, comme disait ma grand-maman.
Fait que c'est pour ça qu'on n'a rien redonné aux citoyens. C'est vraiment pour travailler sur la dette, parce que ce matin, dans Marceau le matin, on avait plusieurs personnes qui nous écrivaient au 418-971-101 en disant « Colin, le maire aurait pu penser à moi, mais vous avez pensé à eux en diminuant la dette. »
Ah ben, on a pensé à eux de trois façons. Premièrement, souviens-toi qu'au mois de décembre, quand on est arrivé, on avait un 13,9 millions de déficit à combler. Ça, c'était la réalité. Puis là, ils sont contents qu'on ait, on a pensé à eux beaucoup parce qu'on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va monter le compte de taxes de façon, avec des strates commerciales, taxer nos créateurs de richesses. On s'est dit, non. On s'est dit, on va se retrousser les manches. Il y a deux façons d'équilibrer un budget. T'augmentes les revenus ou tu réduis les dépenses. On a choisi la deuxième option et aujourd'hui, ça c'est la deuxième partie, c'est le cadre financier qu'on a déposé. Je peux te dire qu'on a fait nos devoirs, puis c'est un travail collectif, c'est pas juste le maire, le Stephen Blaney, là. C'est la commission des finances, c'est le comité exécutif, c'est le conseil de ville, c'est l'administration aussi qui s'est dit, regarde, on veut que Lévis continue à prospérer, mais c'est clair qu'on, faut se le dire, on a quand même un défi au niveau, on veut réduire notre endettement, et puis en même temps, bon, on veut garder le cap sur la création de richesses, se mettre à jour dans nos infrastructures. Enfin, je vais te dire que la ville est bien gérée, puis on a l'intention de continuer comme ça, mon cher.
Monsieur Blainé, je me demandais, parce qu'on parle beaucoup de gestion, sauf que quand on regarde le plus gros des revenus supplémentaires qui ont été émis, c'est du côté des droits de mutation que, oui, vous avez plus ou moins de contrôle. On parle d'années qui fluctuent, ça change d'année en année. Est-ce que vous avez joué un peu de chance, puis c'est pour ça que vous vous retrouvez avec cet excédent-là, ou c'est, pour vous, c'est vraiment en raison d'une bonne gestion?
Écoute, ça, il faut dire que là, quand il y a deux choses, hein, il y a les excédents qui touchent à 2025, puis il y a le cadre financier. 2025, nous, on est arrivé en décembre, hein, faut le dire. Donc, c'était, on a connu beaucoup de densification, fait qu'il y a eu beaucoup de construction. Donc, ça génère des revenus additionnels pour la ville. C'est, comme je le disais, c'est qu'on est victime, en quelque sorte, du dynamisme économique de la ville de Lévis. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, avec les contraintes qu'on a au niveau du développement, parce qu'on est en train de moderniser nos stations, bien là, on a déjà, dans notre cadre financier, on tient compte que ce ne sera pas le Noël du campeur à tous les mois de juillet. Là. C'est clair qu'on prévoit déjà une baisse de ces excédents-là anticipés au cours des prochaines années. Bon, on en tient compte dans notre cadre financier pour justement pas arriver avec des mauvaises surprises en fin d'année.
Je me permets de critiquer un peu votre cadre financier parce que je vois qu'il y a une certaine magie. On ne dégage pas de surplus pour rembourser la dette en 2027-2028. C'est à 0$. Mais on dégage 21,7 millions de dollars en 2029. Moi, pour moi, l'écart est trop grand. Expliquez-moi donc ça.
Bien, deux choses. Premièrement, la colonne auquel vous faites référence, c'est pas la colonne de la réduction du taux d'endettement. C'est la, on appelle ça le paiement au comptant. Autrement dit, c'est quand tu achètes une voiture, mettons, qui vaut, on va dire 50 000 quasiment, puis tu mets 5 ou 10 000 piastres de cash, c'est ce que dans le langage municipal, on parle du paiement au comptant. La raison pour laquelle on n'est pas en mesure de mettre de paiement au comptant présentement, c'est qu'on le disait tantôt, on a une contrainte sur le développement, mais dès qu'on peut alléger notre contrainte, on va être en mesure de restimuler notre croissance et de faire en sorte que nos terrains, on appelle ça des terrains non desservis, on va être en mesure de dire aux gens, allez-y, feu vert, construisez. Et c'est comme ça qu'on va être capable, dès 2020, tu as le tableau en face de toi.
Oui, 2029.
Oui, de générer du paiement au comptant. Mais ça n'en demande pas moins qu'à chaque année, d'ici là, on va continuer à travailler sur notre taux d'endettement parce qu'il est passé de 145 à 140. Ce qu'il faut dire qui est quand même élevé, notre cible, c'est 130 et on veut la dépasser par en bas. Autrement dit, nous, ce qu'on veut, c'est investir dans les infrastructures de base. Vous savez, cette année, on a quadruplé nos investissements pour le pavage. D'ailleurs, tantôt, on me posait la question, si vous passez sur Kennedy en fin de semaine, il va avoir des travaux, il y a des voies de contournement parce qu'on fait Étienne Dallaire. Il y a beaucoup de travaux qui se font en cours. Donc, ce qu'on veut, c'est faire en sorte de réduire la dégradation de nos infrastructures. C'est le maintien de nos actifs et c'est ça notre priorité.
Donc, vous ne couperez pas de ruban, vous allez travailler ces rues. J'aime ça, moi.
Ouais, c'est pas mal ça. On est un peu plate comme administration, ce qu'on veut. Par contre, on va profiter de tous les investissements qui ont été faits dans les dernières années. On a un complexe aquatique, on a une nouvelle maison de la justice, on a des aménagements. Ben ça, on en profite. Mais en même temps, ben c'est ça, si on veut réduire notre taux d'endettement, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, tu me dirais, il y a quelques rubans qu'on aimerait couper, puis un que j'aimerais beaucoup couper d'ici, dans les prochaines années, c'est notre terrain de baseball synthétique qu'on veut retaper. C'est le stade de Georges Marandon.
Oui.
s'en retournait, je ne dirais pas en décrépitude, là, mais...
Ah, je suis allé l'été passé pour un tournoi de baseball, ça manque d'amour.
Bon, ben regarde, Jeff, là, premièrement, dès cette année, on a redoublé d'adore pour entretenir, c'est un beau terrain sur terre battue, mais là, on a un projet qu'on dépose, on veut un terrain de baseball synthétique avec un dôme, refaire les estrades, un bâtiment d'accès, c'est un projet de 15 millions de dollars, et c'est clair que j'ai l'intention d'aller saluer le député de Lévis, M. Drainville, pour l'inviter à nous appuyer dans le cadre d'un programme qu'ils ont là, pour soutenir les infrastructures sportives dans les municipalités, ça s'appelle le PAFIRSPA. Fait qu'écoute, que j'ai bien hâte d'aller présenter ça à M. Drainville.
Vas-tu vous faire un petit cadeau électoral, vous pensez?
Ben écoute, nous autres, on prend tous les cadeaux qui passent. si c'est bon pour les vies, c'est bon pour les citoyens, tu me l'as dit tantôt, là. On est contents.
Puis ça, le stade pour les Jeux du Québec, je me trompe pas, hein, c'est bien ça que j'ai vu?
Ah, ça, le stade, je dois te dire que quand même, faut s'appeler que Lévis, c'est quand même déjà une ville sportive. On a 3 terrains de soccer intérieur qui peuvent servir pour des activités dans le cadre des Jeux d'hiver. On a beaucoup d'infrastructures, que ce soit dans nos écoles, on a des plateaux sportifs municipaux. Mais effectivement, s'il y avait un dôme, c'est sûrement quelque chose qui pourrait être utile. Mais à ce moment-ci, on peut pas nécessairement... On va voir comment vont nos échéanciers. Mais on en est au premier balbutiement. Là, on va déposer notre candidature. On a adopté la résolution hier pour déposer la candidature de Lévis pour les Jeux d'hiver de 2030.
C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que l'amphithéâtre va être prêt à ce moment-là?
Lequel?
Ben, l'amphithéâtre. Là, moi, j'ai assisté à une conférence de presse. C'était Gilles Laulier avec un organisme à but non lucratif. On parlait d'un amphithéâtre de 5 à 6 000 places avec 3 patinoires. On en est où dans ce dossier-là?
Ben écoute, justement, on attend la deuxième étude. On devrait l'avoir soit d'ici avant le début de l'été ou au courant de l'été. On attend ça impatiemment, mais c'est pas essentiel à la tenue des Jeux du Québec. Okay. C'est sûr qu'on va tout faire pour on va accompagner le milieu pour que ce projet-là soutienne, se développe. Mais évidemment, on va tenir compte de la capacité de payer des contribuables. Mais c'est un beau projet. Écoute, on travaille là-dessus. Là, on attend les rapports là, des spécialistes qui sont penchés là-dessus.
Deux petites dernières questions rapides pour vous. Vous parliez justement du paiement comptant 21,7 milliards en 2029. Ça veut dire que le moratoire va être fini en 2029?
Oui. C'est notre objectif. Dans 3 ans et demi, non seulement il va être fini, mais les 2 années précédentes, on rencontre nos partenaires prochainement, parce que c'est pas quand on comprend qu'au moment où tu es en mesure de tirer ta chasse d'eau, parce que ta station est prête à recevoir une décharge additionnelle, ben ça peut faire 18 mois à 24 mois que tu as fait ta construction. Fait que c'est pour ça que 2029, c'est le moment où nos stations entrent en opération. Donc, si on remonte à 2 ans avant, ça veut dire que déjà fin 2027, on peut déjà se mettre en mouvement à la ville de Lévis.
Et Christine Fréchette est en visite demain au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Lévis. Mis à part le troisième lien, c'est quoi votre demande prioritaire?
Ma demande prioritaire, c'est d'avoir un gouvernement responsable, puis notamment au niveau, on a un projet, présentement, on est content qu'on a l'élargissement de l'autoroute 20, mais comme je le disais, on a 150 millions à investir dans nos stations de traitement des eaux usées. On a besoin d'un coup de pouce du gouvernement du Québec. On sait qu'ils ont annoncé 1 milliard hier. Bien, Lévis, là, c'est la ville parfaite pour soutenir une ville qui veut assurer la pérennité de ses infrastructures et les moderniser. Fait qu'en gros, si on s'attend à une subvention de 40% pour un projet de 150 millions, on serait content d'aller chercher un 60 à 80 millions pour notre station, nos 2 projets, Desjardins et Saint-Nicolas.
Monsieur Blainey, les auditeurs vous saluent. Ils ont beaucoup de bons commentaires pour vous en disant que vous êtes un maire qui travaillait pour le terrain et que vous devenez ainsi un maire sexy, imaginez donc.
Monsieur, je vais dire ça à mon épouse.
toujours un plaisir de vous parler, Stephen Blainey, maire de Lévis.
Merci. Salut.
À la prochaine. Stephen Blainey, maire de Lévis. Honnêtement, il fait des miracles. Il a mis la main sur une administration déficiente, moratoire, déficit des infrastructures. Il est en train de remettre ça droite. Je reprends les paroles d'un auditeur qui dit « Sérieux, plus sexy un maire gestionnaire qu'un maire wannabe playboy. »
Puis il faut dire, c'est là qu'on voit du côté de Québec et du côté de Lévis d'avoir des régions, des villes qui sont attrayantes pour le restant du Québec. Parce que autant à Lévis qu'à Québec, la majorité des surplus qu'on a générés, c'est en raison des droits de mutation. Autant à Québec qu'autant à Lévis, parce qu'on a des marchés immobiliers qui sont très actifs. Pourquoi? Parce que c'est 2 villes qui sont très attirantes, et ça, pour tout le monde à travers le Québec. Ça fait en sorte que, justement, des villes peuvent se retirer. Tu peux se prendre un petit coussin financier qui fait que la gestion financière est très bien effectuée. pour cette année, du moins. Là, du côté de Lévis, ça se passe pas si mal aussi. On a une dette élevée, mais ça, c'est des très bonnes nouvelles pour la population de Lévis.
Ah oui, très belle qualité de vie, que ce soit sur la Rive-Nord ou en Chaudière-Appalaches, honnêtement. On n'est pas à plein. On passe au scandale Québec international.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Mathias, pensais-tu que Québec international, le scandale allait s'arrêter avec le compte de dépenses de Robert Mercure, l'ancien directeur général?
Ben, on aurait aimé ça que ça s'arrête là.
Ouais,
s'arrêter de fois, mais
ça.
On a l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui cloche à une place, tu grattes, il y a quelque chose d'autre, puis tu grattes, puis il y a une autre affaire.
C'est vraiment épouvantable ce qui se passe à l'heure actuelle, à l'effet que au niveau de Québec international, c'est depuis environ 8 ans, 3,3 millions de dollars. Oui, oui, 3,3 millions de dollars de vos poches, les amis. Puis commentez au 418-971-1021 qui ont été attribués en subvention que quand le vérificateur général de la ville, Daniel Rancourt, regarde et dit « Hey, ça n'aurait pas dû être donné à Québec international. » On a fait un cadeau de 3,3 millions de dollars à une organisation qui, rappelons-le, a pour mission le développement économique. Mais tu sais, quand tu as pour mission le développement économique, là, Mathias, là, ta job, c'est quoi? C'est que là, tu rencontres des gens. Ah, ça serait tellement fun que tu viennes à Québec. Puis là, tu fais quoi? Tu pars en mission avec le maire Marchand. Tu en vas en Italie, tu t'en vas en Belgique. Hey, on pourrait faire des affaires à Québec. T'sais, tu pèles des nuages.
Ouais, tu rencontres du monde.
C'est ça. T'es pas en train d'embaucher du monde, de faire travailler du monde, d'établir du monde ici à Québec. C'est ça qu'on a fait du côté de la ville de Québec. Et ça, soit dit en passant, très gros blâme au maire Marchand, il n'y a pas de doute. Très gros blâme au maire Labombe aussi. À dur. Depuis au moins 2019.
Ça date pas d'hier.
Puis
tu sais, pour vous donner une idée, la raison pourquoi on dit 3,3 millions de plus qu'on a donné en subvention, qu'on aurait dû, c'est que présentement, la politique d'investissement du côté de la Ville de Québec limite la contribution annuelle que la Ville peut avoir aux organismes à 1 million par projet. Donc, techniquement, par année, la Ville de Québec pourrait donner au maximum 1 million
exactement
à Québec international. Par contre, cette année, c'est 1 892 000 qu'on a donné. C'est presque le double de la limite.
Eh oui. Et comment on a fait ça? Je vous laisse l'entendre. C'est par des petites rencontres un à un. On n'a pas passé par le programme de subvention. Écoute bien Daniel Rancourt.
La rencontre au sommet dont vous nous parlez.
C'est Louise Boisvert de Radio-Canada.
C'est pas un événement occulte, je veux dire, qui a manqué de transparence. On est allé décider dans le bureau, je ne sais pas, parce que vous ne le précisez pas dans les autorités, est-ce que c'est le bureau du maire, est-ce que c'est le bureau du directeur général, on ne le sait pas, je ne sais pas si vous voulez le dire. Mais est-ce que ce n'est pas une drôle de façon de procéder pour prendre des décisions sans laisser de traces?
Ben, c'est sûr que, comme vous le savez, on n'a pas politique de jamais nommer personne dans nos rapports, donc je vais rester à ces autorités. De la...
Mathias, on ne sait pas avec qui, parce que le vérificateur général le dira.
Le dit pas, ouais.
Le dit pas. OK, mais ça, on va être à la job de l'opposition de réclamer une enquête plus approfondie là-dessus pour qu'on sache qui a fait ça.
Si l'opposition fait son travail.
Exactement. Fait que lâchez le tramway, occupez-vous de Québec international. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il faut que tu remplisses des papiers
oui
pour dire « Hey, voici, tu as des subventions à remplir. » Mais là, Québec international, il en voulait plus que le 1 million. Puis tu vas le voir avec l'autre extrait, ils voulaient passer une couple de dépenses qui ne sont pas nécessairement en adhésion avec les objectifs de la subvention. Fait que Robert Mercure, dans le temps, il a dit à quelqu'un à la ville, c'est-tu le maire Labombe? C'est-tu le maire Marchand? C'est-tu Luc Monti, le directeur général de la ville? Là, il va falloir creuser là-dessus. Mais il a dit, hey, on peut-tu se rencontrer un à un? Puis ils se sont rencontrés un à un, puis ils ont fait, ah, quand, gardons ça. Dans le budget de fonctionnement de la Ville de Québec, là, m'a donné 500 000.
Quand ils ont, techniquement, ça ne cadre pas avec les politiques.
Exactement.
Ça ne cadre pas avec ce qui est mis en place pour subventionner ces projets-là.
En plein ça. Donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, à l'encontre des processus qui existent pour nous protéger, nous, contribuables qui payent des taxes, pour nous protéger, pour que l'argent soit bien dépensé dans des programmes qui vont rapporter à la Ville de Québec. Il y a deux petits amis. On en connaît un, c'est Robert Mercure. On ne connaît pas l'autre petit ami. Va falloir le découvrir. Qui se sont rencontrés et qui ont dit « Haha, 500 000 $ par année du contribuable, Hawaï à Québec International.
Puis c'est quand que tu vois, tu sais, à la limite, OK, ça aurait été à Québec International, puis cet argent-là, c'était vraiment pour la mission de Québec International. Mm-hmm. Mais quand on lit ce qui s'est passé avec Robert Mercure, les dépenses, la façon que c'était géré, tu dis cet argent-là supplémentaire, avoir Robert Mercure qui change, parce que je vous le rappelle, là, il chargeait deux repas à deux endroits différents, les mêmes journées. Quand tu regardes ça, tu te dis, ces fonds-là, on n'aurait pas dû les octroyer.
Mais tu sais-tu quoi? C'est le même principe de financement en double. Écoute bien le vérificateur général.
Il y a eu des ententes à chaque année de 450 000 $ Donc, six fois. De 450 000 $ Et pour chacune, on a conclu que c'était inadmissible à la politique, au programme de la vision entrepreneuriale. Pourquoi on a conclu ça? C'est parce que quand on a observé que les services qui sont dans ces ententes-là sont des services qui sont déjà dans les autres ententes de subvention. Pareil, je vous donne des exemples. Les publications pour des communications web, des publications pour des communications économiques, communications économiques, c'est prévu dans ces ententes-là, mais c'est aussi prévu dans l'autre entente. Fait qu'on aurait dû plutôt utiliser ces fonds-là pour les donner à d'autres projets.
Fait qu'on s'est rencontrés deux personnes dans un bureau. On a dit, OK, c'est beau, je te donne 500 000 qui servait à payer, exemple, des communications web.
Ouais.
Mais par le fait même, pour avoir ma subvention d'un million, ben je mettais aussi que tu vas me financer des communications web. Alors, on l'a payé en double.
Tu sais, c'est ridicule, là. Puis en plus, là, je suis en train de dire un peu plus en détail, pour l'entente de services professionnels 2024, Québec International a présenté des factures pour 450 000 $
ouais,
qui ne contenaient aucun détail sur les services rendus.
Exactement.
On facturait sans dire ce qu'on avait fait ou ce qu'on allait faire avec l'argent.
Oui, puis écoute bien le vérificateur général à cet effet-là.
À l'été 2025, donc probablement printemps-été 2025, Ils ont fait les analyses des différentes éditions qu'ils ont obtenues. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait 422 000 $ qui étaient non admissibles, dont des salaires, il y avait des salaires qui n'étaient pas admissibles. Il y avait des dépenses pour des événements qui n'étaient pas admissibles, dont le fameux tournoi de golf. Donc, différents montants qui étaient admissibles. Aussi, au niveau des services professionnels, ils ont coupé pratiquement pour 50 % des montants.
Vous avez payé, chers contribuables, avec votre argent, des tournois de golf.
C'est ridicule.
À Robert Mercure et aux dirigeants de Québec International.
On donne l'argent, puis après ça, on est comme, on se rend compte que finalement, cet argent-là n'était pas admissible. Moi, mon questionnement, là, c'est que ça dure depuis des années. Pourquoi ça continue?
Exactement. Et là, c'est là qu'avec cet extrait-là qu'on peut tenter de piéger le maire Marchand, puis à savoir c'est qui a donné l'autorisation, parce que là, à un moment donné, il y a du monde au niveau des redditions de comptes qui se rendent compte de ça, que ça marche pas. Puis, ils produisent un rapport pour dire que ça fonctionne pas. Mais on a caché ce rapport-là parce que en 2025, en septembre, on reconduisait les subventions. Mais le rapport était produit. Mais on ne l'a pas donné aux élus. Écoute, réécoute, là, on réécoute.
À l'été 2025, donc probablement printemps-été 2025, Ils ont fait les analyses des différentes éditions qu'ils ont obtenues. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait 422 000 $ qui étaient non admissibles.
422 000 dont des salaires non admissibles?
Il y avait des salaires qui n'étaient pas admissibles. Il y avait des dépenses pour des événements
tournoi
qui étaient admissibles, dont le fameux tournoi de golf. Donc, différents montants qui étaient admissibles. Aussi, au niveau des services professionnels, ils ont coupé pratiquement pour 50 % des montants.
Ils ont coupé 50 %, mais on n'a jamais averti le conseil exécutif. Il y a quelqu'un qui a dit « non, on n'en parle pas ». Puis on a subventionné encore à grand coût d'1,8 million par année alors que ça devrait être 1 million maximum, Québec International.
Ça au cours des... Non, mais ça au cours des prochaines semaines, je parle de l'opposition de la Ville de Québec qui va devoir creuser sur ça parce que c'est inadmissible là, de dire « hey, on a donné de l'argent qui n'était pas nécessairement admissible, mais on a donné tournoi de golf. C'est ridicule, Jeff.
Ben oui.
Là, c'est ridicule. En fait, c'est inacceptable. Je vous rappelle, les différentes villes partout à travers le Québec appellent à taxer plus. Après ça, on apprend des histoires comme ça où qu'on fournit de l'argent pour des tournois de golf, pour des dépenses qui ne sont pas admissibles dans les programmes.
Pour des organisations qui pèlent des nuages. Même pas une organisation qui emploie des gens. À long terme, ben c'est sûr, il emploie plein de gens. Là. Ils sont 50 à pelleter des nuages là, dans Québec international. Là. Fait que, il emploie des gens, mais tu sais, pas de développement économique en tant que tel, pas dans l'innovation, non, dans Québec international. Puis écoute, le calcul du 3,3 millions, ben écoute, là, c'est les additions que M. Rancourt va faire, le vérificateur général là, de la ville.
5 ans à 450 000, plus une autre année à 250 000 environ.
Donc, si on additionne tout ça, ce sont tous ces montants-là de fonds publics qui ont été octroyés à Québec international de façon non correcte et qui pourraient faire l'objet d'un remboursement.
Bien, à tout le moins, c'est là, ça va être à voir avec le, justement, comme je disais tantôt, avec le contentieux, qu'est-ce qui doit être fait. Et aussi, il faut comprendre que c'est en lien avec la ville aussi. Là. Est-ce que la ville est admissible elle-même à utiliser là, ce fonds-là? Fait qu'il y a tout ça à prendre en compte. Là.
Fait que 5 ans, 450 000, plus un 250 000, plus le 800 000 des deux années de vérification du vérificateur général dans son rapport, on est à 3,3 millions. Et là, la fin, elle est très intéressante. Parce qu'est-ce que la ville pouvait prendre ce 3,3 millions-là qui descend du ministère de l'Économie pour payer Québec international? S'ils ne peuvent pas, là... Ben moi, j'étais le ministre de l'économie aujourd'hui, là, je dirais, j'étais Bernard Drainville.
Tu t'en vas cogner à la porte.
Je vais cogner à la porte, puis je dis, OK, on enquête là-dessus. Puis je sors les noms, puis je sors les affaires, puis je vais récupérer mon 3,3 millions s'il le faut. Tu sais, comme les auditeurs disent. Après ça, on dit qu'il n'y a pas de gras à couper. Ben non, des tournois de golf, je pense qu'on peut couper ça. Puis, tu vois-tu, autre réaction également par texto. Ouais, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, Marchand est en Italie. Pas moyen, justement, de lui parler. Puis en effet, tu m'en parlais tantôt, Mathias, le timing de la mission du maire Marchand.
Ça arrive pas au bon moment.
Pas là pour le vérificateur général. Pas là pour le sommet des infrastructures. Pas là pour le dernier conseil de ville. C'est drôle. Stephen Blaney, lui, il s'occupe de l'asphalte pendant ce temps-là, il s'occupe de ses infrastructures, il est à son conseil de ville, puis il a déposé son cadre financier. Pas pire, hein?
Puis ça arrive durant sa mission pour Velo City en Italie.
Oui, exactement. Une autre dépense qu'on avait besoin, il n'y a pas de gras à couper à la Ville de Québec. Alors, c'est le scandale du jour. C'est 3,3 millions de dollars remis à Québec Philanthrope dans une rencontre entre body-body. Hey, Mathias! Me donnerait-tu un petit 500 000, on va essayer de le passer. Pas trop que le monde le sache. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben oui, pourquoi pas.
C'est ça.
Mais est-ce que t'as droit de donner ce 500 000-là? Je sais pas.
Pas grave, pas grave. Ferons pas passer. Budget de la ville, c'est 2 milliards. 500 000, c'est des pinottes.
Ouais, sauf que quand ça commence à faire une couple d'années, on tombe à 3,3 millions, hein?
Je vais être en Italie pendant ce temps-là. OK. Ah, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Après la pause, député de Jean Talon, Pascal Paradis vient s'asseoir avec nous en studio. On va jaser de TGV, on va jaser de poursuites en raison de la mention organisation criminelle. On va parler des sondages dans la région de Québec et on va poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer au 418-971-1021. Émission d'En Jase, c'est ton mercredi 17 juin. À la météo, à l'heure actuelle, c'est 25 degrés, 40 % de possibilité d'averse. On parle d'un risque d'orage en après-midi. Demain, c'est de l'ennuagement, puis parfois forte, débutant tard le matin. Risque d'orage tard en après-midi. On prévoit 30 à 40 mm de pluie. Et pour ce qui est là, d'à plus long terme, vendredi, samedi, dimanche, c'est de la pluie. Donc, profitez de ce bel après-midi. Mathias, à la circulation?
Oui, juste vous dire, autoroute 20 à hauteur d'avenue Taniata, léger ralentissement dans le secteur. Également, capitale direction ouest, c'est à niveau de Robert Bourassa que c'est au ralenti. Et le gros ralentissement présentement, c'est avenue Chauveau, c'est pare-choc à pare-choc entre boulevard Saint-Jacques et Delormière en direction est. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
On a avec nous en studio le député de Jean Talon pour le Parti québécois, M. Pascal Paradis. M. Paradis, comment allez-vous?
Ça va bien. Et vous, messieurs?
Ben, ça va super bien. Bon, qu'est-ce qui va arriver là, cet après-midi? Est-ce que Charles Milliard va dire « je poursuis le PQ » ou il va dire « j'y vais pas finalement »?
Ah, c'est vrai que c'est aujourd'hui la fin du délai.
C'est aujourd'hui la fin du délai.
Ça
donc,
vous
suspense.
Ben, écoutez, nous, on a déjà annoncé nos intentions. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé qu'il ne reculerait pas, qu'il ne se rétracterait pas, parce qu'il pose des questions légitimes et que dans une démocratie comme la nôtre, poser des questions légitimes sur le financement d'un parti politique alors qu'il y a eu des événements avérés de financement illégal, ça fait partie de notre démocratie. Monsieur Milliard décide qu'il veut transporter ce débat-là dans l'arène judiciaire. Voyons voir ce que sera sa réponse à lui aujourd'hui.
Oui, c'est ça. L'arène judiciaire, moi, j'ai un petit peu de difficulté, là, puis je me positionne avec ça. Lorsqu'on est en politique, lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, puis là, je comprends que Paul Saint-Pierre Plamondon n'était pas dans le salon rouge, il était dans le hall, là, mais bon, moi, pour moi, ça reste l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'avec ce qui est arrivé avec la députée Sona Lacoyenne-Olivier, bon, là, je vais prêcher pour votre paroisse pour là. Il faut se poser des questions.
Mais oui, il faut se poser des questions. C'est quand même stupéfiant pour moi que maintenant le débat, c'est est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait le droit de poser ces questions-là, alors que je pense que tout le monde là, qui nous écoute actuellement veulent le plus de probité possible en politique, savent qu'il y a eu donc ce cas-là d'une députée donc qui a été... il y a un rapport d'enquête là-dessus, là, et donc il y a du financement illégal.
Écoute, on a tenté de détruire de la preuve, on a fait de l'intimidation sur les témoins, il y avait de l'argent qui circulait dans le bureau de comté, c'est gros, là!
Exactement, et ils savent aussi qu'il y a cette question des textos où on dit qu'on a... Donc les brownies, hein, donc c'est des billets, hein, c'est de l'argent qui aurait été donc accumulé pour... servir pour, en quelque sorte, pour du financement illégal là, d'une campagne, puis pour des procédés illégaux. Ils connaissent aussi l'historique du Parti libéral du Québec, hein, qui était l'objet de plusieurs enquêtes dans le passé, dont certaines, malheureusement, n'ont pas abouti. Et là, les Québécois veulent que ça aboutisse, parce qu'actuellement, il y a une enquête de l'UPAC, donc de l'Unité permanente anti-corruption du Québec. On n'en a pas de nouvelles, mais il y a une enquête. Il y a une enquête... la commissaire à l'éthique sur d'autres événements aussi. Donc, ce sont des questions légitimes. Comment ça se fait qu'on dit « Ah, on n'a pas le droit de soulever ces questions-là » plutôt que de continuer à se poser des questions sur ce qui se passe de ce côté-là parce que ça fait partie de notre démocratie.
Mais le cas Sona Lacoyenne, on va tous s'entendre que c'est inacceptable. On a tous hâte d'avoir des résultats de ces différentes enquêtes-là, mais ça va pas un peu loin de directement lier le PLQ et le crime organisé?
Bon, d'abord, il a posé des questions et il dit que ce sont des questions qui sont importantes actuellement et ce sont des questions dont on peut s'imaginer qu'elles font partie des enquêtes. Mais donc, il pose des questions. Et il pose des questions compte tenu d'un historique que les Québécois connaissent. Alors, ce sont des questions légitimes. On espère donc qu'il va y avoir une partie de ces réponses, de ces questions-là qui vont trouver des réponses. Et c'est ça l'important actuellement dans le débat, alors qu'on se concentre actuellement sur est-ce qu'il aurait dû dire ça, est-ce qu'il n'aurait pas dû dire ça. C'est connu là, que actuellement, c'est parmi les éléments qui devraient être éclaircis par les enquêtes en cours.
Ce débat-là me fait penser au lanceur d'alerte, parce que, bon, Marois Risquet a lancé l'alerte au niveau du Parti libéral du Québec. On a vu ce qu'on a fait. On l'a pitché dans le coin des indépendants, puis on a dit dans le coin des députés indépendants, là, pas des indépendants au niveau du Québec. Puis on a dit « Tais-toi ». Christine Fréchette a tenté de faire la même chose avec un fonctionnaire. Elle a même mis l'UPAC après lui pour dire « Tais-toi, t'as pas d'affaires à parler de la filière batterie ». Le PQ, s'il prend le pouvoir, parce que présentement, vous êtes en avance dans les sondages, faites quoi avec les lanceurs d'alerte? Vous les acceptez? Vous êtes à l'aise avec ça?
Bien, ça fait partie de notre démocratie aussi de permettre à ce qu'il y ait des gens qui voient donc des actes répréhensibles et qu'ils puissent... trouver le moyen de les dénoncer. Et il y a une loi qui a été adoptée au Québec en 2024, qui est la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Elle donnait suite notamment à différentes résolutions de l'Assemblée nationale où on disait bien, il faut qu'il y ait une protection. Maintenant, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Dans quelles circonstances on est un lanceur d'alerte? Parce que d'un côté, je comprends les gens qui disent bien, il y a de l'information confidentielle qui circule au sein du gouvernement, au sein des officines, et il y a aussi un devoir de loyauté. Donc, à quel moment tu deviens un lanceur d'alerte? Ça, ce sont des questions qui se posent. Nous, au Parti québécois, en tout cas, on a fait de nombreuses déclarations sur la protection des lanceurs d'alerte, C'est très important. Donc, j'en ai déposé une la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour dire, je rappelle que la protection pour les lanceurs d'alerte, elle a été refusée par le gouvernement de la CAQ. Et c'est quand même très particulier que la première ministre se soit empressée d'annoncer publiquement le congédiement de cette personne dont on parle. C'est très préoccupant. Et donc là, on vient de parler du Parti libéral. Maintenant, on est à la coalition Avenir Québec. Et là aussi, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la chasse au gaspillage compte tenu de ce qui s'est passé dans Nordvolt, alors que là, on a perdu, juste dans ce dossier-là, 700 millions de l'argent des Québécois? Est-ce que ça devrait être ça la priorité? Ou de s'assurer qu'on congédie des gens qui ont essayé de dénoncer la situation? Ce sont de drôles de priorités.
Oui, poser la question, c'est y répondre. Maintenant qu'on a parlé du Parti libéral du Québec, maintenant qu'on a parlé de la CAQ, parlons donc du PQ. Quelle mouche vous a piqué sur le TGV? On est des premiers balbutiements. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous avez fait une sortie comme ça, le train de la liberté canadienne?
Ben là, déjà, il y a beaucoup d'éléments de réponse dans votre question. Je vais commencer par le fait qu'on vient juste, il y a 30 secondes, de parler de Nordvolt et de ses dossiers, dont la vérificatrice générale du Québec vient de nous dire, pendant 8 ans de gouvernance caquiste, on a dépensé des milliards sans plan, sans données, sur le pif des ministres concernés, du premier ministre Legault et de la première ministre Christine Fréchette.
Pierre Fitzgibbon avec François Legault, un petit scotch dans les mains, puis on décide.
Et Christine Fréchette. Christine Fréchette a été là-dedans. Moi, je l'ai eu comme vis-à-vis à l'énergie.
Moi, je comprends pour vous, c'est important de rappeler Christine Fréchette.
Non, mais c'est parce que là, actuellement, dans une opération, dire c'est comme si elle n'était pas dans ce gouvernement-là. Elle n'a jamais été assise à la table du Conseil des ministres. C'est quand même assez extraordinaire. Là.
Ben,
ça fait 4 ans qu'elle est là.
Ça me consterne toujours. Puis là, ils sont en plein Conseil des ministres. Puis je me dis toujours, coudonc, écoutes-tu ces ministres-là? Parce qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui s'est passé au Conseil des ministres, je n'étais pas au courant. Mais non, mais il doit bien avoir une présentation à un moment donné.
Ben
ça doit être fait comme une. Ça doit être comme une rencontre à job quand on est assis avec nos boss puis nous disent voici les objectifs, voici ça, comment qu'on va. Ça doit être ça, un Conseil des ministres?
Oui, mais nous, ça fait des années aussi qu'on échange avec. Alors qu'elle était ministre avec Christine Fréchette. Et elle a largement appuyé cette stratégie du bar ouvert des subventions, puis envoyé les milliards. Elle a même souvent dit « Je suis fier d'en mettre plus. » Lyon Électrique, c'est elle qui voulait mettre plus d'argent, alors que là, ses collègues au Conseil des ministres ont dit « Ben non, peut-être pas. » Donc,
là,
elle en fait partie. Ouais.
Fait que là, vous allez me dire, le TGV, c'est comme Nordvolt. On est déjà en train de dépenser sans savoir ce qu'on va faire.
Exactement. Écoutez,
c'est pas fou.
Actuellement, là, Alto dit... Il y a 2 à 4 millions de personnes par année qui utilisent le corridor Québec-Windsor. Et là, ils nous disent, on va construire un TGV, puis en 2050 ou 2055, il va y en avoir 10 fois plus. 10 fois plus. C'est quoi les chances que ça arrive vraiment? Ça repose sur quoi? Quelles sont les études? Donc, actuellement, on dit, attention, parce qu'on nous prétend plein de choses. Et le Parti québécois le dit, là. Regardez la sortie d'ailleurs de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il dit, écoutez, nous, c'est pas qu'on est contre le principe d'un TGV. On est des gens qui pensent que des infrastructures de transport collectif structurantes, c'est important. Mais ce projet, comme il est présenté actuellement, par qui il est présenté et comment il arrive sur la place publique actuellement, on dit, mais attention, on est en train de faire toutes les mêmes erreurs que tout le monde dit, il ne faut pas faire ça. Donc, on le dit sur la préparation, le plan, les données. Là, on prétend plein de choses. Deuxièmement, actuellement, tout le monde nous dit, les politiciens, pourriez-vous en finir avec le syndrome de la pépine, le syndrome du coupage de ruban? L'Ordre des ingénieurs du Québec sont venus me rencontrer, moi.
On les a régulièrement entrevus.
Ils viennent nous dire, attendez, là, on a 45 milliards de déficit d'actifs actuellement. Les gens qui nous comprennent, ça veut dire qu'il faut qu'on mette 45 milliards sur nos actifs, nos infrastructures actuelles. Puis dit ça, c'est sous-estimé probablement de 40 milliards. Donc, on a 85 milliards. Les municipalités du Québec nous disent, on a besoin d'un plan de 50 milliards pour les infrastructures. Dans la capitale nationale, ici, vous savez à quel point on parle d'infrastructures. Il vient d'avoir un rapport des anciens ministres des Finances, Monique Jérôme Forgette et Nicolas Marceau, donc de deux partis différents qui nous disent...
Monique Jérôme Forgette a peut-être exagéré que son eau potable, par exemple.
Les exemples, peu importe les exemples, ils viennent nous dire même chose. Là, arrêtez de couper des rubans puis d'annoncer pour des raisons politiques
ça,
des nouveaux projets. Donc nous, on dit, on a écouté ça. On a entendu les villes et les municipalités à travers le Québec nous dire ça. Et donc, on dit, actuellement, il y a des urgences puis il y a des priorités qui sont celles-là. pourquoi on accepterait que le gouvernement fédéral arrive avec un projet dont je viens de dire que sur le plan des données actuellement, puis c'est quoi les besoins, puis quel est le niveau d'urgence, pourquoi on accepterait ça? Puis je termine avec deux choses, vous l'avez ajouté dans votre question, ouais. Là. C'est présenté par le gouvernement fédéral lui-même comme un nation building project pour bâtir, tu sais, encore pour renforcer le lien fédéral. C'est pas nous qui le disons.
Mais
c'est annoncé comme ça. Puis si vous me laissez terminer sur le dernier élément, c'est que le moment où ça arrive aussi n'est pas anodin actuellement en politique québécoise. Nos priorités sont ailleurs. Et là, les gens pensent que c'est un cadeau qu'on va avoir, là. Tenez-vous bien à votre volant, ceux qui nous écoutent, là, puis ceux qui sont à la maison, tenez-vous à votre chaise, je vous annonce quelque chose. L'argent ne pousse pas dans les arbres au fédéral, puis ils ne feront pas de cadeaux. Si c'est un projet qui coûte, disons, entre 100 et 200 milliards, parce qu'actuellement, on ne le sait pas non plus combien ça coûte, mais il y a une part d'argent là-dedans qui va être des impôts, des taxes des Québécois qui vont être mis là-dessus. Nous, on dit, est-ce qu'on pourrait déterminer nous-mêmes nos priorités?
Mais c'est pas vrai qu'on va récupérer 40 milliards, par exemple?
Bien... C'est...
Parce que c'est un 40 milliards qui n'est pas encore investi, fait que on ne peut pas nécessairement récupérer.
Oui, mais le gouvernement fédéral, disons là, que ça coûte entre 100 et 200 milliards, ce n'est pas un cadeau du fédéral. Il y a une partie là-dedans qui va être de l'argent de
Ça vient de nos poches. Là.
Voilà. Alors nous, on dit, est-ce qu'on pourrait décider selon nos priorités actuellement? Et actuellement, ce que les gens du Québec et de la capitale nous disent, c'est qu'il y a des grandes priorités, il y a des urgences, puis c'est là qu'il faut investir. Et c'est ce que nous, on dit. De manière responsable, parce qu'on écoute depuis des années. Et je vous ai cité des rapports et des experts qui nous disent ça. Voici ce qu'on dit sur le TGV.
Je termine avec sondage, région de la Capitale-Nationale. Troisième, le PQ. Comment vous allez faire pour remonter ça?
Là, vous avez un léger qui vient de sortir aujourd'hui.
Où vous étiez premier.
Où on est premier.
Ouais, vous étiez troisième dans le palace. Ça change beaucoup.
Mais tu sais, ça dépend de la maison de sondage. Là. Je suis pas un expert du tout en sondage. Puis je vous l'ai dit plusieurs reprises que là, tu sais, on fait pas de la politique en fonction des sondages. Mais oui, on les regarde.
Yes.
Mais je comprends que l'échantillonnage de Palace, notamment à Québec, est beaucoup moins grand.
Qu'est-ce qu'on a eu pour les Jeux?
Fait que là, il faut regarder les tendances. Le Parti québécois, depuis l'élection partielle dans Jean Talon, est pas mal tout le temps le premier au Québec, chez les francophones, et très souvent le premier, ou pas mal tout le temps,
le premier dans la capitale nationale. Présentement, le vote francophone vous permet là, justement d'accéder au pouvoir.
Donc, ce sont des facteurs qu'on regarde et donc les gens nous disent à Québec qu'ils apprécient notre travail. Mais je vous dis toujours la même chose. On regarde ça parce que c'est une façon de voir ce que les gens disent, ce qu'ils pensent à un moment donné. Mais ce que les gens nous disent le plus, c'est « Savez-vous pourquoi est-ce qu'on aime le PQ? » C'est que vous vous tenez debout, vous avez des convictions, vous êtes cohérent, vous êtes constant, puis vous n'avez pas l'air justement d'être tout le temps en train de regarder « Qu'est-ce que vous devriez dire pour plaire à l'électeur moyen de la banlieue nord, de telle ville, de tel âge en tel âge? » Puis on va continuer à faire ça.
Je suis obligé d'être en accord avec ça parce que c'est ce que je dis en ondes depuis plusieurs mois, plusieurs années. Puis vous voyez, je vous pose même pas la question, ça va être dans le premier mandat, parce que vous m'avez convaincu que ça va être dans le premier mandat, votre référendum sur la souveraineté. Vous tenez.
On se tient, et parce que c'est pas une question de sondage, c'est une question de ce dont le Québec a besoin, et plus que jamais, alors que tous les pays du monde sont à la défense du principe de souveraineté, alors que Mark Carney est devenu un des champions internationaux de la défense du principe de souveraineté. Lui-même nous dit, à chaque fois que vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu.
Ouais.
C'est la même chose pour les Québécois.
Je termine là-dessus, le livre bleu la semaine prochaine?
Oui, ça s'en vient.
Êtes-vous excité?
Vous savez, c'est une partie importante. On fait deux choses en même temps, puis je vous l'ai dit souvent aussi. Nous, on va dire, voici ce qu'on va être comme gouvernement, puis on a travaillé très sérieusement, puis on continue à travailler sérieusement sur toutes les priorités. Je suis venu ici de vous parler tellement de nos propositions en éducation, en santé, en économie, la question des écrans, etc., etc. Et en même temps, on dit, voici ce que pourrait être un Québec souverain, puis voici pourquoi ça va nous propulser sur le plan de la prospérité, sur le plan de notre vivre ensemble, puis notre capacité de décider par nous-mêmes, puis de ne pas se faire imposer des décisions par des gens qui, finalement, sont de plus en plus étrangers à ce que sont nos préoccupations, puis nos défis, puis nos rêves, nous, au Québec.
Pascal Paradis, toujours un plaisir.
Vous êtes plaisir partagé.
Vous êtes un politicien redoutable. Vous avez réussi. Mathias, tu as réussi à pratiquement me vendre qu'il ne faut pas se lancer dans le TGV.
Pratiquement. Presque.
Je vais revenir pour finir ça, finir le travail, parce que je pense que c'est une prise de position importante, mais qui démontre notre rigueur et notre pragmatisme.
C'est une prise de décision de votre part, puis je le dis en toute transparence, très logique avec le courant politique que vous avez.
Voilà, puis encore une fois, je le répète, hein, c'est pas une prise de position contre un TGV puis contre des infrastructures de transport collectif structurant, parce que c'est vrai que c'est une solution qui est fonctionnelle, qui aide, mais quelles sont nos priorités actuellement et quelles sont les urgences en matière de grands projets au Québec? C'est pas celle-là. Puis ça, c'est encore le fédéral qui arrive avec quelque chose en nous disant... c'est immense, là. Ça serait un des plus grands projets de l'histoire du pays. Puis ça nous arrive encore un peu comme ça, là, sans donner. Là. Pensez-y, là. Vraiment, là. On va multiplier par 10 en 15 ans le nombre de personnes qui vont être dans un train entre Québec et Windsor.
Ah, là, vous me relancez sur une question. Ça n'a pas d'allure. Faut que je finisse avec ça. On va-tu vraiment doubler le nombre de gens qui vont prendre le transport en commun que le tramway?
Ah ben ça, par contre, là, ça, quand on parle d'un projet qui a été étudié sur toutes ses coutures, qui fait l'objet d'un nombre d'analyses, d'enquêtes, puis vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous avez, je pense, devant vous un des rares politiciens qui les a toutes lues.
Oui.
Tout lu ces documents-là. Je les ai lus.
Et puis moi, je travaillais au RTC, ces premières études. J'y connais, moi aussi, sur le bout de mes doigts.
Donc ça, quand on parle de... puis je suis venu vous parler de ça ici, ouais. de comment toutes les données internationales disent des projets comme ça, il faut que ça soit réfléchi selon les besoins, les finances, la solution technique, technologique. Ça, c'est le cas d'un projet qui a tellement été débattu parce qu'il a été controversé.
C'est
clair. Il y a encore des gens qui n'y croient pas. Je le comprends, mais donc, pour ces raisons-là, c'est un des dossiers qui a été le plus étudié dans l'histoire des projets d'infrastructure du Québec. Donc là, on est confiant que ce qui est annoncé, c'est que c'est ça qui va se passer, puis ça va vraiment nous aider sur la congestion des axes. En venant ici, là, c'est encore la même chose.
Non,
on le vit tous à Québec. Ça va nous aider, puis ça va nous lancer, ça va nous propulser dans la modernité.
Bien, hâte d'avoir. Moi, je suis Thomas sur le doublé. On a allé jusqu'à 14-15% de part modale pour le transport en commun.
Bien, il y avait des statistiques aujourd'hui, là, sur parce qu'un réseau d'autobus, donc il n'y a pas un réseau collectif structurant, ça a un impact, ça, sur la capacité d'être à l'heure, de transporter confortablement, etc. C'est ça qui change avec un tramway. Et vous le savez, j'ai été 25 ans à l'échelle internationale. Il y a quelque chose que j'ai vu partout. Partout. En Amérique latine, en Europe, en Afrique, partout. Peut-être en Afrique, il y a moins de ce genre de projet-là. Mais je l'ai vu partout. C'est que les gens sont inquiets avant, pendant la phase de construction. Puis ça va être des années difficiles. Mais après ça, quand le système y commence, il n'y a plus personne sur la planète qui veut revenir en arrière parce qu'ils disent « Ah, oh, OK, là, je vois c'est quoi la différence.
» Là, je vous laisse partir parce que j'avais dit que je vous laissais partir à l'écart puis il était 21, je vais me faire chicaner.
C'est toujours un plaisir.
Salut! On s'en parle.
Ciao.
Bon début de campagne électorale, bon été. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Courte pause, Lani Dufour vient s'installer avec nous, chroniqueuse économique. On va parler de ce G7. Bon, on a fait quoi avec le G7, Mathias? À part dire à Donald Trump « Ah, ton plan en Iran est bon. » Ça ressemblait à ça. À part l'amener au château de Versailles puis réserver un terrain de golf, coudonc! On fait quoi pour flatter l'ego de Donald Trump dans le G7? Je cherche encore.
Mais dans les dernières années, dans les derniers mois à l'international, à part flatter l'ego de Donald Trump, c'est quoi qui s'est passé?
Ouais, mais je cherche encore. On flattait pas mal d'ego dans ce G7. Ça n'a pas servi à grand-chose, selon moi. Lani Dufour, d'après moi, on va nous le confirmer. Émission d'Enjase de ce mercredi 17 juin. Il est présentement 13h26. Je vous le rappelle, c'est la belle journée à la météo aujourd'hui. Même pour avoir des averses en fin de journée, parce que demain, c'est ennuagement, pluie parfois forte qui va débuter tard le matin. Risque d'orage en après-midi, c'est 30 à 40 mm de pluie. Puis après ça, bien, vendredi, samedi, c'est de la pluie. Dimanche, ça va être nuageux avec 30 % de possibilité d'averses. Donc, si vous pouvez prendre une petite marche dehors après-midi, ou en fin de journée, faites-le. Vous allez pouvoir profiter de ce beau soleil. Mathias, avant qu'on parle de G7, ou plutôt de flattage d'ego de Donald Trump avec Lani Dufour, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oui, je veux juste vous repréciser le sondage léger qui a été publié aujourd'hui concernant les intentions de vote au provincial et d'autres données qu'on va parler également. Le PQ qui est encore une fois premier, 30 %, ça bouge pas. On n'a pas eu beaucoup de mouvements de ce sondage-là. 27 % pour les libéraux, 21% pour la CAQ et 13% pour les conservateurs et 8% pour Québec solidaire. Ça reste très stable par rapport au dernier sondage. Ce que je veux vous parler, par contre, c'est une donnée en particulier qui n'est pas restée stable, c'est la satisfaction à l'égard du gouvernement Fréchette qui est passée du côté des insatisfaits à 43%. Lors du dernier sondage, il y a de ça un mois environ, on était à 33%, une augmentation de 10%.
c'est énorme.
Oui,
c'est une grosse augmentation pour le dernier mois. Donc,
la
ça, c'est à surveiller. C'est ça, exact. Puis aussi, il y a eu sa mauvaise semaine économique et tout.
Oui, avec le chef de la dette.
On voit que Mme Fréchette commence peu à peu à perdre de son rythme.
Non, en effet, tu as raison. Hey, soit dit en passant, ça bouge énormément en politique parce que demain à 10h, le PLQ va annoncer son candidat dans Vanier. Les Rivières. Par la suite, à 11h, on va confirmer du côté du Parti conservateur du Québec le Dr Karim Elaoui dans la circonscription de Chauveau. On attend encore une première annonce de la CAQ.
C'est pas nécessairement une nouvelle de bonne, une journée de bonnes nouvelles pour Christine Fréchette.
Attends, on voit ton micro. Lani, qu'est-ce que ça veut dire?
On annonce plus des départs aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Ben, en parlant de départ, c'est Jean Boulay, ministre du Travail, qui a annoncé qu'il n'allait pas se représenter au prochain mandat. Un point de presse très émotif du côté de Trois-Rivières. Le ministre du Travail du côté de la CAQ a toutefois tenu à préciser que pour lui, Christine Fréchette était la bonne personne pour diriger le Québec. Et dépôt du vérificateur général de la Ville de Québec, le rapport d'Audi sur l'année 2025. On note différentes choses, notamment des retards du côté des autobus du RTC. On parle d'au moins un autobus sur cinq qui ne respecte pas les horaires établis par le RTC. On a aussi critiqué le financement de Québec International, qui est beaucoup plus élevé qu'il devrait être.
Hey, en passant, Québec International, j'ai fait un lapsus. J'ai mélangé Québec International et Destination Québec City tout à l'heure. Ce n'est pas Robert Mercure qui est à la tête de Québec International, mais bien Carl Viel. Donc, pardonnez-moi, j'ai vraiment fait un lapsus. J'ai mélangé les deux organisations. Alors voilà, c'est dit. Je remets ceci dans le bon ordre des choses. Lani Dufour est avec nous, directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communication. Lani, comment ça va?
Ça va bien. J'aurais aimé mieux être à Évian-les-Bains, mais c'est correct. Ouais, c'est beau, ça. Quand même.
Premièrement, Lani, je veux juste prendre une petite note personnelle pour te remercier parce que ce soir, à la scène Le Bourgneuf à 19h30, Big Muff acoustique pour le fonds philanthropique Catherine Guillet, c'est sold out.
C'est sold out. C'est malade.
Il reste plus un billet. Ça va être un show extraordinaire. On avait pour objectif d'amasser 15 000 $. C'est un partenariat avec les cliniques Ovel, clinique privée pour la femme en santé, et le Patro Laval. On va ouvrir une clinique dans les locaux du Patro Laval pour les femmes et les adolescentes défavorisées qui n'ont pas de médecin de famille, qui cherchent des soins de santé. Ça va être gratuit pour elles. Et là, on avait un objectif de 15 000, puis je t'annonce qu'il est déjà défoncé.
Hey.
Puis il peut juste continuer à augmenter. Fait que
bravo,
c'est complètement
à toi,
fou.
Hein. Je sais
merci.
Que tu travailles fort pour ça.
Merci beaucoup. Merci aux gens de Québec. Merci aux auditeurs de Boulevard. C'est tout le monde qui y croit. Merci aux entreprises. Donc, on va tout dire ça ce soir. 5 à 7 sur la passerelle. De la poutine Ashton. Merci à mon chum Vince avec qui je m'entraîne, qui m'a dit « Sais-tu quoi? C'est tellement beau ce que tu fais que je vais offrir de la poutine au monde. » Merci au Ben Big Muff qui est là gratuitement. Écoute, c'est un show qui me coûterait 3 000, 4 000 piastres, 5 000. Eux autres, ils viennent gratuitement pour le trip de l'affaire pour la Fondation. Donc, je me sens vraiment choyé d'être entouré comme ça. Tu voudrais être à Évian, en France?
Oui. C'est quand
t'aurais
même
aimé
beau.
Ça. Château de Versailles, hein? Tu pourrais être là avec Donald.
Je pense que j'aurais pu, comme observatrice, bien me porter là-bas à écouter un peu les conversations.
C'est
Il y en a eu quelques-unes qui ont marqué...
des micros verts,
ouais,
hein,
c'est ça,
où
qu'on
là, on a appris
d'accrocher.
Que Mark Carney... Dans le fond, là, on a appris dans ce G7-là rien au niveau économique. D'habitude, on sort toujours avec des ententes, on sort toujours avec des traités signés. Ouais. On ne s'est pas trop entendu sur l'Ukraine non plus. Mais on a appris que Mark Carney, dans les coulisses, il fait tout pour plaire à Donald Trump. Fait que les gens qui disaient « Carney, il va contre Trump puis ça va nous faire mal », on peut plus avoir ce discours-là.
Mais quand on tombe en face-à-face, peu importe c'est qui, là, c'est jamais des grandes chicanes. Parce que tu sais, je lisais un peu sur ce qui s'est passé, puis effectivement... C'est quand même dur à suivre, à savoir c'était quoi l'impact concret de ce que ça avait eu, juste pour vous mettre en contexte.
On dirait qu'il n'y avait pas de fil conducteur sur ce
c'est
G7-là.
Un peu décousu, là. On avait, l'Ukraine qui a fait partie des discussions. Mm-hmm. Il y a eu la Russie. Là. Carney a annoncé d'ailleurs qu'il y avait plus que 160 personnes qui étaient ciblées par des sanctions pour continuer à mettre de la pression. Comme vers 10 heures à peu près, on a su que Trump avait eu une discussion avec Volodymyr Zelensky, et que, justement, il a dit qu'il allait continuer à mettre de la pression plus grande sur la Russie, qui est quand même un changement de cap parce que c'était pas vraiment tout ça qu'on avait dans les discussions. Fait que moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué pour ce bout-là.
C'est le fait qu'il se retire de l'Iran que là, ça va faire en sorte qu'il va mettre
affaire.
Une certaine pression sur Poutine en disant « Hey, moi, je viens de me retirer, retire-toi toi aussi. »
C'est ça. Là, on est vraiment dans la géopolitique de « je vais faire ci, je vais faire ça », mais le droit international, la beauté de ça, c'est qu'il n'y a pas de loi qui légifère ça. Donc, c'est un peu la bonne volonté de tout le monde. Tu sais, le G7, ça a été fondé justement par les 7 plus grands pays, les puissances mondiales. Puis là, il va y avoir le G20 aux États-Unis aussi à la fin de l'année. Donc, c'est des lieux de rencontre. Puis c'est sûr qu'il y a des discussions qui se passent puis qu'il y a beaucoup de choses de coulisses qu'on ne peut pas percevoir là, quand on n'est pas sur place. Moi, je pense que ça a un impact quand même. Ça reste de la diplomatie. Mais est-ce qu'il y en a certains dans les dernières années qui ont peut-être eu plus d'incidence? Je pense que oui, parce qu'effectivement, là, on avait un Donald Trump qui est arrivé un peu en roi, là. Tu sais, il était là, je suis arrivé en retard, mais c'est moi le boss.
Ben oui, un matin. I'm the boss. Puis là, c'est... là, il rit tout.
C'est des premiers ministres, mais en même temps, tu sais, ça, c'est juste le bout qu'on remarque puis qui fait jaser. Mais ce qui a vraiment de l'impact, on le voit pas.
En effet.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que pour les différents pays, ce G7-là, c'est un peu une réussite? Dans le sens, oui, Donald Trump est un peu arrivé en roi, mais il n'a pas lancé une bombe non plus durant le G7. Il n'a pas lancé une déclaration choc. Ça a été un Donald Trump relativement tranquille, j'ai envie de dire, comparé à ce qu'on a eu au cours des derniers mois.
Oui, tu as raison. Puis à part s'attribuer tous les mérites, ben effectivement, il n'a pas fait de grandes déclarations. Là, la communication bilan du G7, c'est mentionne beaucoup le président Trump, justement. Puis en coulisses, on a eu une diplomate là, qui a parlé en disant « Écoute, moi, si c'est pour faire que ça fonctionne, je peux le nommer 6-7 fois si vous voulez. » Tu sais, il ne s'attarde pas sur ce... Il ne s'en fâche pas, je dirais même, sur ce genre de détails-là, parce que si c'est pour lui faire plaisir, mais que de l'autre côté, on réussit à s'entendre puis à avancer, on dirait que tout le monde a accepté un peu ses caprices pour justement lui plaire, mais qu'ultimement, tu sais, on finit par essayer d'atteindre les objectifs.
Fait que là, t'es en train de me dire que pour sortir la Russie de l'Ukraine, ça prenait juste le château de Versailles?
Ben écoute, c'est du vrai... C'est de l'or lourd, là, selon lui. C'est pas juste du plaqué.
Oh my God!
Hey, mais on le sait qu'il trippe sur la royauté.
Ah, il trippe au bout! Non, ben, il se sent comme un roi, donc il trippe sur la royauté.
En même temps, on est curieux, fait qu'on regarde ça, mais est-ce qu'on roule des yeux? Ben oui, tu sais, puis au final, comme tu dis, on sort pas de là avec un grand traité, mais tu sais, je repense à lui qu'on avait eu à Charlevoix. Je suis pas sûre qu'on était ressorti avec quelque chose de si formel que ça. Tu sais, il y a pas de traité, c'est plus une rencontre de l'informel, des relations. Tu sais, on disait que Carney n'a pas réussi à avoir sa rencontre officielle. Oui, mais il a parlé tout.
Là, il a parlé
jours.
Tout le long. Là,
au final...
Il a même validé que l'entente avec, pour les véhicules chinois électriques, c'était à sa convenance. Je veux dire, donc,
dans ma job, là, souvent, ce que je dis au monde, c'est que va sur place, sur le terrain, mais c'est pas là que tu gères ces détails-là de deal puis de tes demandes. Tu mets ton pied dans la porte, puis après ça, ça t'amène à aller dans le.
Oui, puis de toute façon, c'est les équipes aussi qui travaillent ça, la petite virgule. Ce sera pas Mark Carney pour Donald Trump.
Là, c'est on serre des mains, on prend des photos. Mais c'est pas le temps de jaser non plus des choses trop sérieuses.
Hey, parlant de serrer des mains, prendre des photos, il y en a une qui voulait pas se faire prendre en photo hier, c'est Christine Fréchette qui est allée rencontrer le Québec Inc., devrais-je dire, notamment Henri-Paul Rousseau, l'ancien PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et Charles Sirois, qui est un des cofondateurs de la CAQ. Est-ce qu'elle voulait pas se faire prendre en photo parce que aller voir ces hauts dirigeants-là, ça peut être, elle peut être critiquée pour ça par la suite?
Je pense pas qu'elle peut être critiquée. Le bémol que je soulèverais, c'est que, comme dans n'importe quoi, quand tu rencontres des élus et du public, si tu fais du lobby, ben tu dois déclarer ça.
Ouais.
Fait que, tu sais, pour moi, le bout de dire « je ne vais pas identifier qui était là parce que, dans le fond, QG100, c'est ça qui prône. C'est des membres qui sont là. C'est un réseau dans plusieurs pays. » Et ils prônent la confidentialité. Moi, je suis comme pas de problème si tu veux pas être identifié, mais en même temps, je trouve qu'on stick sur justement le fait de savoir qui est là. Puis là, tout le monde va essayer de creuser puis de chercher.
En effet.
Alors qu'au final, les discussions devaient être pertinentes. Tu sais, discuter en tant qu'entrepreneur avec une première ministre dans un endroit privilégié, c'est pas un enjeu. il y a des règles qui légifèrent ça avec justement la loi sur le lobby. Tu t'enregistres, un mandat. Fait que tu sais, au final, ces gens-là, même s'ils disent qu'ils sont dans le secret, après, je ne sais pas si tous ces gens-là sont conformes, mais ils doivent entrer un mandat dans Carrefour Lobby, comme moi j'ai avec tous mes clients auxquels je fais du lobby, puis c'est normal. Fait que tu sais, s'ils veulent, les journalistes, creuser pour faire des demandes d'accès, pour savoir qui était là, puis fouiller dans le registre, ça va se savoir. Fait que mon bémol, c'est vraiment sur le fait de combattre le fait qu'on veut pas dire qui était là, puis qu'il y a personne qui assume le fait d'avoir été là, alors que
ben, c'est ça, alors qu'on devrait l'assumer.
Cachette, là. Ben pour non, moi, il n'y a pas ça. De cachette d'avoir participé à cette rencontre-là. C'est pas grave, là, dans le sens que si tu fais avancer le Québec, puis tu contribues, puis que tu as des idées... C'est pas, y a pas de danger là-dedans. Faut juste que tu sois conformément enregistré. Puis en même temps, est-ce que c'est à la première ministre de déclarer qui était là? Je suis pas sûre non plus. C'est une responsabilité individuelle que tu as d'être enregistré. Fait que tu sais, je pense que c'est des deux côtés.
Ouais.
Puis elle, dans son agenda, c'était bien inscrit qu'elle les rencontrait. Mais évidemment qu'il n'y a pas la liste des personnes. Là. Tu sais, ça, c'est normal. Là.
C'est normal.
Tu as la loi 25 là-dedans. Là. Tu sais, c'est normal que l'organisation ne partage pas la liste de tous ses membres. Mais là, de commencer à être dans un rôle de plus cachotier, ben, de l'opinion publique, ça a juste l'air d'être du monde qui essaie d'avoir des gains et des avantages, alors que ça pourrait vraiment être quelque chose de positif.
Oui, t'as raison avec l'opinion publique. C'est justement là-dessus que je voulais terminer. Est-ce que dans l'opinion publique, elle serait mieux d'aller rencontrer dans des régions, des PME, serrer des mains?
Moi, j'en organise des rencontres. Tu sais, quand il y a des élus qui nous disent « Ah, je vais aller au Saguenay », ben j'organise des rencontres comme ça, puis il y a des médias qui viennent assister aux mots d'ouverture souvent. Après ça, on leur demande de quitter pour les discussions pour que tout le monde soit libre de dénoncer un peu ses priorités, ses enjeux en privé. Mais ils sont identifiés. Il y en a qui parlent aux médias après quand on ressort de cette rencontre-là, puis il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Fait que c'est ce bout-là que je comprends pas, où est-ce qu'on... On tient mordicus à pas mentionner l'identité des entreprises. Alors
ouais, moi
que,
non plus, je le comprends pas.
Au final, c'est correct qu'il n'y a pas à la discussion. Là. C'est pas ça qu'on demande. C'est juste le fait de pas être transparent. Puis je pense que le réseau, là, quand on va sur leur site web, il se nomme transparent, mais de l'autre côté, il identifie personne.
Ouais.
Fait qu'il y a peut-être un manque de cohérence à ce niveau-là.
Vraiment. Très gros manque de cohérence, puis manque de transparence envers, justement, l'électeur. L'année du four, c'est toujours un bonheur. T'es à Saint-Georges demain. Grosse annonce.
Ouais. On va suivre ça.
On va suivre ça. Tu nous tiens au courant?
Vous m'appellerez.
Excellent! Salut! Salut! Lannie Dufour, directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. Mathias, on a eu une déclaration officielle de Québec International. On en parle. On va en parler après la pause.
Parfait.
C'est drôle. On remet... on remet le singe, hein?
Ouais.
On va remettre le singe sur l'épaule de la ville de Québec. Oh, Bruno Marchand qui va revenir d'Italie tout bronzé, va avoir des questions à répondre.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Et comme d'habitude, après l'émission d'Angers, c'est le retour de Gravel qui va suivre avec Denis, Véro et Audrey. Audrey qui va chanter ce soir à la scène Le Bourgneuf avec le groupe Big Muff. Il va avoir plein d'autres invités aussi. Brun, le chanteur de Big Muff, me dit « Tu veux-tu avoir cette liste? Tu veux-tu savoir la liste de nos invités? » J'ai dit non.
Tu veux la surprise?
Surpris.
Ah, c'est
j'adore
cool,
vivre des shows et être surpris. Puis Big Muff me surprennent tout le temps. Leur dernier show au Grand Théâtre, quand Rudy Kaya sorti pour chanter « Salut, salaud », je me suis levé d'un trait. J'ai fait « Eh! »
Tu t'y attendais pas.
Hey, je m'y attendais pas. Pantoute. J'étais tellement content.
Moi, ça va être une première ce soir, Big Muff.
Ah, tu vas voir, ils sont vraiment exceptionnels.
J'ai vraiment hâte de voir.
Ils sont vraiment exceptionnels. 5 à 7 sur la passerelle Le Bourgneuf avec l'excellente chansonnière Rosemarie McComo qui va nous animer ça de main de maître. Mathias, on a des développements concernant Québec International. Mais avant, pour remettre les gens dans le bain, OK? La Ville de Québec a donné 3,3 millions de dollars dans les dernières années. Puis ça remonte facilement aux années 2019. Donc, l'époque de Régis Labeaume comme maire de Québec. On octroie des subventions. C'est un total de 3,3 millions de dollars qui ont été octroyés à Québec international. Mais on passe pas par les programmes de subvention normales. On est passé par une petite rencontre un à un pour avoir cet argent-là. On écoute Louise Boisvert de Radio-Canada questionner justement Daniel Rancourt, le vérificateur général de la ville, à cet effet.
La rencontre au sommet dont vous nous parlez, est-ce que c'est pas un événement occulte, je veux dire, qui a manqué de transparence? On est allé décider dans le bureau, je ne sais pas, parce que vous ne le précisez pas dans les autorités, est-ce que c'est le bureau du maire, est-ce que c'est le bureau du directeur général? On ne le sait pas, je ne sais pas si vous voulez le dire. Mais est-ce que ce n'est pas une drôle de façon de procéder pour prendre des décisions sans laisser de traces?
Ben, c'est sûr que, comme vous le savez, on a pour politique de jamais nommer personne dans nos rapports, donc je vais rester à les autorités de la ville. Et évidemment que c'est... Normalement, si on regarde les autres dossiers, ben, il y a une demande par écrit qui est faite. On demande une demande pour avoir une subvention. C'est ça la procédure standard. Ici, la procédure standard n'a pas été appliquée.
Fait qu'une petite rencontre entre deux personnes dans un bureau qui a donné 3,3 millions de dollars depuis 5 à 6 ans de plus à Québec international. Bon, on ne sait pas qui était à cette rencontre-là. On présuppose que Carl Viel, le DG de Québec international, y était. On ne sait pas c'est qui de la ville. C'était-tu à l'époque du maire Labombe? C'était-tu le maire Marchand? C'était-tu Luc Monti, le DG de la ville? On ne le sait pas, mais chose certaine, Québec international a réagi. Qu'est-ce qu'on dit dans la réaction, Mathias?
On dit prendre acte du rapport justement du vérificateur général et qu'on va procéder à un examen approfondi sur le contenu. On précise aussi que l'objet du rapport ne concerne pas nécessairement la gestion de Québec international en soi. On vise vraiment les subventions supplémentaires justement que la ville a octroyées. On précise aussi que toutes les ententes conclues avec la ville ont été approuvées par des instances municipales compétentes qui ont été réalisées conformément au mandat confié et ont fait l'objet de reddition de compte exigée. Donc, du côté de Québec international, on dit que tout, de leur côté, du moins, a été fait dans les règles.
Hey, moi, j'ai fait tout dans les règles. Si la ville de Québec m'a donné de l'argent, c'est eux autres qui ont décidé de me donner de l'argent. Puis s'il y a un coupable, c'est la ville de Québec. Si je lance les lignes, c'est pas mal sûr.
Ça ressemble à ça. On dit aussi qu'on est prêt à collaborer avec la ville puis qu'on n'avait pas nécessairement à faire d'autres commentaires. Mm-hmm. Le temps de prendre pleinement connaissance du rapport en question.
Bien, ça va prendre quelqu'un qui va se mettre le nez là-dedans dans un palier supérieur que la Ville de Québec. Donc, c'est une subvention économique. Est-ce que c'est ton ministre de l'Économie, Bernard Drainville, de le faire? On parle de municipalité. Est-ce que c'est ton ministre Samuel Poulain des Affaires municipales à le faire? Chose certaine, faut se mettre le nez là-dedans. C'est 3,3 millions de dollars qui auraient pu aller à d'autres entreprises, qui auraient pu rester dans nos poches de contribuables. Donc, c'est de l'argent qui n'avait pas à être donné à Québec international. Et là, lorsqu'on apprend de la bouche du vérificateur général que c'est à la suite d'une rencontre, et là, je reprends les termes de Louise Boisvert, occulte entre deux personnes, ça n'a juste pas de bon sens.
Puis on a des règles sur les politiques d'investissement qui sont plutôt strictes, des politiques, tu sais, pour des raisons. C'est pour éviter justement qu'on choisisse qui a plus d'argent que d'autres. On limite ça à un montant. On met un cadre autour de ça pour bien entourer la chose, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. De voir après ça que ces mêmes politiques-là, on ne les respecte pas pour certaines entreprises ciblées. Tu sais, dans le rapport, on dit que l'argent qui a été donné à Québec international n'était pas admissible. Je veux dire, la ville, si l'argent n'est pas admissible dans leur programme de subvention, dans leur politique d'investissement, ils n'ont pas d'affaires à la donner.
En plein ça. Donc, c'est un 3,3 millions de dollars qui a servi à graisser Québec international. Et on a tenté de garder ça caché sous la couverte en passant justement par le budget général de la Ville de Québec. C'est ce que le vérificateur général de la Ville nous disait également avec une subvention de 500 000 $ qui venait du cadre financier régulier. Donc, on a tenté de camoufler ça. Beau travail de Daniel Rancourt, vérificateur général de la Ville de Québec. Une organisation qui a mangé une volée aussi par le vérificateur général, c'est la RTC. Ça va pas bien, Mathias?
Ben, j'irais pas jusqu'à dire une volée.
OK.
Mais
moi, en ayant travaillé là, qui trouve que la fiabilité fait défaut par peu près.
Ils se sont fait brasser, puis il y a certes plusieurs points que moi, je trouve cause problème. Là. Pour vous donner une idée, on s'est penché sur l'efficacité du réseau de transport de la capitale. Puis ce qu'on nous révèle dans le rapport, c'est qu'au moins un autobus sur cinq du RTC ne respecte pas leur horaire.
Hey, 20%!
Ouais. Puis ça, c'est au minimum, OK? Je vais vous décortiquer des chiffres un peu. Pour les métrobus, on parle de 20% des métrobus qui ne respectent pas leur horaire. Pour du côté des express, on parle
là,
de...
Je t'arrête deux secondes. Demandez-vous pas pourquoi il y a des trains d'autobus. Il y en a un sur cinq qui ne respectent pas l'horaire.
Ouais, c'est ça.
Express.
Ça finit par s'empiler un par-dessus l'autre. Les express, c'est 20% également. Les métrobus, à la limite, ça passe aux 10 minutes.
Ouais, c'est ça.
Mais un express, ça passe tellement pas dans une journée.
C'est parce qu'un express, t'es en retard à la job, c'est clair. C'est ton ça, express passe pas, t'es en retard à la job, t'es en retard à l'école, t'es en retard à un examen. Bref, ça met tout le monde qui est dans le parcours express, entre 40 à 50 personnes, en retard.
Et pour le service, le bus, on parle de 31% des autobus qui ne sont pas, alors qu'ils ne respectent pas l'horaire.
Ça n'a pas de sens.
Ça, pour moi, c'est
le pire.
C'est
le pire parce que les parcours bus passent aux 30 ou 60 minutes, oui. Même des fois 90 minutes la fin de semaine. Fait qu'imagine comment le monde sont dans le trouble.
Puis comment le monde sont dans le trouble, tu vois? Il y a 15% de ce 31%-là que c'est des retards. On parle de 5 minutes ou plus. On sait que c'est problématique parce que ça peut faire en sorte qu'on...
Tu pogneras pas ta correspondance au terminus.
Sauf que, à la limite, c'est un retard. Si tu arrives à l'heure pour prendre ton autobus, tu peux quand même le prendre.
En effet.
16% du temps, ces autobus-là sont en avance.
Hey, ça, ça veut dire que tu arrives à l'arrêt, là, il est aux 60 minutes, tu arrives à l'arrêt à l'heure, puis là, tu dis, OK, mais il n'a pas passé. Il passe pas. Puis là, tu poireras 60 minutes.
Il est
là,
déjà passé. Ouais.
Il peut faire moins 20, il peut te neiger dans la face, il peut te pleuvoir dessus. L'autobus est déjà passé en avance.
Puis le RTC le dit, puis c'est écrit dans les différentes consignes pour les autobus. Les autobus ne peuvent pas passer d'avance normalement. Normalement, un autobus ne devrait pas passer d'avance. Des retards, ça peut arriver. Puis je trouve que ça s'excuse mieux un retard aussi. Des fois, on est pris dans du trafic, dans des travaux, etc. Mais un autobus à l'avance, quand tu le manques parce qu'il est passé deux minutes à l'avance, ça fait mal.
Vraiment. On termine l'émission en sport Coupe du monde. C'est 1-1 à la mi-temps entre le Congo et le Portugal. Le Congo vient de marquer. C'est Wiza qui a marqué. Johannes Wiza qui a marqué dans le temps supplémentaire. Portugal avait pris les devants dès la sixième minute avec Joao Neves qui avait marqué. Cristiano Ronaldo était sur l'alignement de départ à la surprise de tous. Angleterre-Croatie, c'est à 16h. Ghana-Panama, 19h. Et Oustabescan contre la Colombie à 22h.
Si vous avez un match à regarder aujourd'hui, Angleterre-Croatie, ça va en être tout un.
Vraiment, vraiment, vraiment deux très bonnes nations de soccer. Capitale de Québec ce soir au Stade Canac, c'est 19h. Victoire spectaculaire hier de 13-12 devant les partisans au Stade Canac. Donc, vous pouvez vous rendre en grand nombre. Il va faire beau ce soir. De toute façon, à Saint-Lebourgneuf, ben, c'est sur le dard, c'est complet. Vous ne pouvez pas y aller. Anyway, Big Muff.
Vous avez trop attendu.
Exactement. Et également les Jays de Toronto qui vont jouer à Boston. Belle victoire des Jays hier, 6-1 contre les Red Sox. Mathias, c'est un plaisir de t'avoir retrouvé.
Un retour.
Ça n'a pas paru pantoute que tu revenais de vacances, même si toi tu trouves que ça a paru, tu étais dedans à
ça,
mort.
Ça paraît dans ma tête du moins. Là. Je vais faire des beaux dodos ce
soir. Denis s'amène avec Véro et Audrey. Restez des nôtres. Merci d'être auditeur de Boulevard 101.
Bonne journée.